Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h24, merci d'être avec nous. Hein. Patrick vous le disait il y a quelques instants, peut-être que ces derniers temps, vous avez envie de décrire hein, votre vie, des choses qui vous se passent par la tête, en tout cas de coucher des lignes sur un papier. Ben, on va en parler ce matin dans un livre qui s'appelle Le Grand Roman de l'Écriture aux éditions Novice. Pierre Ménard est avec nous, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes auteur de plusieurs essais hein, remarqués, dont Les Infréquentables Frères Goncourt, finaliste du prix Goncourt de la biographie en 2020 et c'est un manuel justement pour devenir
un manuel. Alors d'où vous est venue cette idée, parce que bon bah donc vous avez déjà écrit vous-même mais vous n'êtes pas forcément un spécialiste des cours d'écriture en permanence, vous n'avez pas commis si je puis dire d'autres manuels précédemment, ça vous est venu d'où alors?
Alors, l'idée m'a été suggérée par l'éditeur qui est ici, qui est tout jeune.
Ouais. Et Édition Novice.
Hein. Édition Novice, voilà, c'est son premier livre. Et l'idée, c'était de dire qu'il y a beaucoup de gens qui aiment écrire, que c'est vraiment une passion partagée. Dès qu'on a arrêté la dictée au collège, on est content d'écrire. C'est ce qu'aiment faire 80% des Français, visiblement.
Ça démarre au journal intime, c'est ça?
Ça peut commencer par, oui, j'imagine, le journal intime, où vraiment énormément de gens aiment écrire. Est-ce que vous savez combien ont écrit ou prévoient d'écrire un livre?
Non,
c'est un Français sur deux.
Mais non,
un Français sur deux.
Et combien de livres ont été écrits, commencés en tout cas pendant le confinement? 10% des Français.
Ah, c'est 10% vraiment,
des Français. Oui, j'étais surpris moi-même par les chiffres, par la quantité de gens qui aiment écrire. C'est-à-dire qu'a priori, une personne sur deux qui nous écoute aujourd'hui à ce projet-là. Et l'idée, c'était de voir qu'après, en revanche, il y en a très peu qui arrivent jusqu'au bout à terminer le livre et encore moins à le faire publier. Je me suis amusé à faire quelques petites statistiques.
Oui. Allez-y, c'est
bon. On a quand même 131 fois plus de chances d'entrer à Polytechnique que de faire publier son livre. L'idéal étant bien sûr de faire les deux.
Ça démarre mal.
D'être à la fois à Polytechnique et d'écrire des livres, mais c'est encore plus rare.
Est-ce que vous savez quel est le frein, justement? C'est quoi? C'est la peur?
Les places sont rares, en fait. Vous avez énormément de concurrence, avec 10% des gens qui ont écrit déjà pendant le confinement. Là, les maisons sont visiblement submergées. Je crois qu'il y a eu une augmentation de 40% du nombre de manuscrits reçus ces dernières semaines. Il y a des articles là-dessus.
Non, je disais, parce que là, c'est abouti pour le coup, puisque ça a été envoyé aux maisons de 10, mais aux maisons aux
vous
éditions.
Chantez, vous chantez, Cécile, vous chantez.
Oui, non, mais quel est le frein? Pourquoi les gens ont envie et ne vont pas plus loin? Est-ce que vous savez ça, en fait? Est-ce que c'est une mésestime de soi-même de se dire, je ne suis pas capable d'écrire? Est-ce que c'est quoi?
Je pense que beaucoup de gens ont un peu peur, peut-être aussi, commencent et puis s'arrêtent, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez intimidant dans un livre, c'est un projet à mener à terme. Et à l'école, on nous présente quand même ces écrivains comme des êtres totalement inaccessibles. Flaubert, Balzac, des génies, des gens qui écrivent complètement inspirés par la muse. Alors eux en jouent aussi. Par exemple, c'est Lamartine qui racontait qu'il se promenait dans les bois la nuit, les nuits de pleine lune, et qu'il avait les idées de ses poèmes, qu'il les écrivait directement en rentrant de ses promenades dans les bois.
Le storytelling énorme.
Voilà. Et quand on regarde les brouillons en fait de ces écrivains-là, on s'aperçoit qu'ils ont travaillé d'arrache-pied et que justement ce même Lamartine en fait réécrivait constamment ses vers, et donc ce qu'il faisait au sortir d'une promenade dans les bois, en fait, ça lui prenait un an et qu'il le réécrivait 50 fois.
Oui, c'est ce que vous le dites dans ce livre. Il y a quand même un vrai travail. C'est-à-dire que c'est quand même important. Il n'y aurait certainement pas autant de pages.
Oui. Alors, est-ce que... On va aller sur les recettes. On verra ça dans le détail dans un instant. Mais sur les recettes, avant d'écrire, il faut avoir son idée en tête. Parce que là, vous êtes appuyé beaucoup aussi sur... de nombreux écrivains, de nombreux auteurs. Il faut avoir une idée en tête, il faut déjà avoir toute l'histoire. Certains se disent « Oh là, mais j'ai fait un rêve fabuleux, il faut que je l'écrive, ce serait exceptionnel. » C'est à partir de ça, comment ça peut se déclencher?
Oui, alors juste avant ça, oui, j'aimerais dire que l'idée de ce livre, du coup, c'était aussi pas de partir de ma petite expérience qui n'intéresse pas grand monde.
Mais quand même.
vous me flattez beaucoup. Ouais. Mais l'idée, c'était quand même justement de voir comment faisaient d'un côté les écrivains qui étaient très reconnus, donc justement Balzac, Flaubert, quels étaient leurs secrets de création.
Et puis les récents, hein. Tatiana de Ronet, etc.
N'étant pas en possibilité d'interviewer Flaubert ou Marguerite Duras, d'interroger des gens qui sont vivants, qui sont nos contemporains, qui nous ressemblent, qui souvent ont un travail à côté aussi, ont eu des tas de parcours complètement divers, et donc de demander exactement à des écrivains, alors dans des registres très différents, mais Camille Pascal, Tatiana de Ronet, Alexis Lecor, Jérôme Garcin, David Fenkinos, Maïlys de Kerangal, donc Amélie Nothomb, donc plein d'écrivains différents, comment, quels étaient leurs secrets, leurs techniques. Et alors, pour répondre
et
à votre
livre,
question.
Ouais. Et ils les livrent leur secret.
Eh oui, ils les livrent, alors, parfois sous la torture. Non, ils ont été, ils étaient très contents de les livrer.
Ouais.
Je pense pas qu'il y ait de recette miracle. Et donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas de méthode particulière. Je pense qu'il y a deux catégories d'écrivains. Il y en a qui sont extrêmement inspirés. Amélie Nothomb, par exemple, raconte qu'elle n'est jamais devant une page blanche. En fait, elle sait toujours, elle se met devant une page, et puis elle écrit, elle sait déjà ce qu'elle va faire.
Ouais.
Et il y en a quelques-uns comme ça qui ont des centaines d'idées de
sujets. Ouais.
Et de l'autre côté, on en a d'autres qui justement racontent qu'ils n'ont absolument aucune imagination. Et j'étais très surpris, par exemple, de découvrir que Zola racontait qu'en fait, il avait très peu d'imagination, et que pour lui, il voyait même dans l'imagination la déchéance du roman moderne. Et donc, ce qu'il disait, c'est qu'il avait une idée de sujet, par exemple, il voulait écrire sur les actrices, et qu'est-ce qu'il allait faire ? Alors, il allait enquêter, lire des journaux, entendre des témoignages, interroger des gens, faire un énorme travail de documentation qu'il allait ordonner, construire une vague intrigue autour de ça, et il racontait, en classant justement tous ces documents, le livre allait tomber tout seul. Et c'est ce que disent d'autres écrivains aussi. Par exemple,
il faut avoir un sujet, en quelque sorte. Quoi.
Il faut avoir une idée de sujet.
Il faut énormément se documenter pour être capable de donner les détails, puisque c'est là où, évidemment, se fait toute la différence. Quoi. On est crédible ou pas crédible. Quoi.
Voilà, je pense qu'un des conseils quand même à faire ressortir, c'est que quel que soit le livre, c'est quand même très bien de se documenter. Il y a très très peu d'écrivains qui racontaient qu'ils écrivaient au fil de la plume et sans jamais faire de recherche. Et ça, même pour des romans ou des sujets dont on n'aurait pas idée qui demandent autant de recherche, il y a tout un travail de recherche. Flaubert, par exemple, passait 7 ans en moyenne pour faire un livre, dont 5 à faire des recherches.
Ouais. Allez, on va poursuivre
dans un instant.
Oui, avec des appels.
Plein de questions.
Au 0826-300-300, vous pouvez appeler, demander en fait des conseils.
Il n'y
a pas de recette magique,
en
mais enfin, il y a quand même un certain nombre de pistes qu'il faut savoir ensuite défricher, observer un petit peu, évidemment, son entourage, se documenter pour pouvoir ensuite écrire. Quoi. Allez, on en parle dans un instant.
Et on continuera, bien sûr, au 0826-300-300. Et vous n'hésitez pas à nous appeler. On vous attend, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h33, si vous, comme Patrick Roger, écrivez vos mémoires, Patrick, bien sûr.
Ouais.
Ce livre, ce matin, c'est le grand roman de l'écriture aux éditions Novice, avec Pierre Ménard qui est avec nous, auteur de plusieurs essais remarqués. Hein. Donc je les rappelle, les infréquentables frères Goncourt. Et puis vous êtes finaliste aussi du prix Goncourt de la biographie en 2020. Je revenais sur un point important, avant de prendre nos auditeurs. L'importance, finalement, de la personnalité des personnages, de la personnalité des gens, et je faisais le lien avec la politique où les journalistes disent que maintenant, depuis le départ de Donald Trump, bah, Joe Biden, l'histoire ne sera pas racontée de la même façon, puisque le personnage est, entre guillemets, un petit peu plus pauvre. Est-ce que cette importance dans un roman est capitale ?
Je pense que c'est la clé d'un bon roman, c'est vraiment de pouvoir s'identifier au personnage, c'est ce qu'on va retenir. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une étude qui avait été faite, un sondage auprès de jeunes Anglais, et alors la moitié d'entre eux doutaient de l'existence de Churchill, de Richard Cœur de Lion, des gens non, il n'avait jamais existé. Et en revanche, il y avait, je crois, deux tiers d'entre eux qui ne seraient pas étonnés de rencontrer Sherlock Holmes dans la rue.
Ah oui.
Donc ça montre à quel point parfois la frontière
prend une réalité incroyable.
Est ténue entre les deux. Et donc, oui, je pense que vraiment une des clés d'un bon roman, c'est d'avoir un personnage qu'on retienne. Bah, c'est le cas si on lit le Comte de Monte Cristo. Vraiment, c'est quelqu'un qui va nous accompagner, qui va nous marquer. D'ailleurs, souvent les livres portent le nom du héros, c'est pas un hasard aussi.
Ouais.
Et donc, oui, il y a quelques méthodes là-dessus. Par exemple, déjà, trouver un nom pour son héros, beaucoup de méthodes pour ça.
Oui, vous le dites, sur une lettre, sur une enveloppe, on a écrit son nom, son prénom, on a regardé, géolocalisé à peu près où il puisse aller, le prénom, le date forcément, enfin tout est important finalement.
Et c'est ça, c'est Flaubert qui était en train de pleurer parce qu'on voulait changer le nom du héros de l'éducation sentimentale, il disait il faut réécrire le livre dans ce cas, plus rien ne va couler de source à cause de son nom du héros. Et c'est Simenon aussi qui racontait sa méthode pour écrire un livre, qu'est-ce qu'il faisait ? Il ouvrait un annuaire au hasard et puis il cherchait là-dedans un nom de héros. Et à partir de ça, il allait justement réussir à échafauder son livre.
Ah oui, non, bah ça c'est très bien. Harry Potter aussi. Certains disent mais il a existé. Oui, enfin pas vraiment. Il est sorti de l'imagination et de J.K. Rowling, quoi. Hein, qui qui était désespérée, hein, d'ailleurs. C'est assez incroyable, elle est superbe, cette histoire. Elle était désespérée, et puis elle était dans un bar, dans un pub, en fait, écossais, elle écrivait, en fait, des histoires, et c'est comme ça que ça a démarré.
Oui, et puis je crois qu'elle a été refusée, je sais plus si c'est 11 ou 13 éditeurs, et puis finalement, il y en a un dernier qui l'a accepté. Ouais. Et c'était un des anciens éléments que je voulais montrer dans le livre, justement, avec toutes ces interviews, notamment, et tous les échecs qu'on connaît. Proust, qui a dû payer pour éditer son premier livre, qui a été refusé absolument partout. Flaubert, qui s'est fait rejeter de l'éducation pour la tentation de Saint-Antoine, qui a arrêté d'écrire après pendant 2 ans, et montrer qu'en fait, tous les écrivains interrogés et tous ceux qui sont cités, la plupart, ont vraiment beaucoup bataillé avant de réussir à s'imposer.
Allez, en tout cas, c'est un vrai personnage qui est à l'antenne, hein. c'est pas un personnage de fiction. Frédéric est avec nous au 0826 300 300, et il nous appelle de l'Île-de-France. Bonjour Frédéric.
Bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs.
Oui. Alors vous êtes déjà justement un écrivain.
Oui, un auteur.
Un auteur.
Oui, l'histoire extraordinaire d'un homme très ordinaire.
Oui, merci de le dire.
entre autres.
Dimitri le prisonnier oublié.
Et vous avez.
Et que meurt la bête.
Et vous avez profité du. Parce que est-ce que vous êtes un auteur écrivain professionnel entre guillemets ou est-ce que vous avez une activité à côté, un métier et puis vous écrivez par ailleurs quand vous avez du temps libre quoi et puis c'est une passion.
Oui, j'ai eu un métier très longtemps, j'ai toujours quelques activités professionnelles, mais l'écriture, comme vous venez de le dire très bien, l'écriture c'est une passion, on en rêve tous, on a envie de le faire. Moi, il y avait très longtemps que j'avais des histoires qui me tournaient dans la tête, donc maintenant que j'ai un peu plus de temps, j'ai décidé de me mettre devant la page blanche de mon écran d'ordinateur et d'écrire. Oui.
Qu'est-ce qui vous a tourné, vous, vers l'action, le thriller, parce que c'est ce que vous écrivez, pourquoi ces thématiques?
Je crois que c'est Jean d'Ormesson qui répondait à une journaliste en disant « Comment faites-vous pour parler aussi bien des femmes ?» Et il répondait « On ne peut bien parler que de ce qu'on connaît. » Donc, si vous voulez, ces thrillers, ça a été ma vie professionnelle pendant 40 ans. Donc, j'ai plein d'aventures à raconter et donc je les mets en lumière à travers mon personnage principal, mon héros. Vous en parliez tout de suite des héros, là, Marcus. Mmh. Et je raconte quelques-unes de ses aventures, de ses actions.
Ouais. Et est-ce que le confinement et puis la crise que l'on vit influe là sur votre écriture, puisque vous écrivez, vous êtes en train de rédiger un quatrième roman, est-ce que ça change en quelque sorte votre orientation?
Alors, le confinement, oui, parce que comme tous les Français, je l'ai pris au départ peut-être avec un peu d'amusement, un fort étonnement et rapidement de l'inquiétude, parce que c'est quand même assez violent. Du jour au lendemain, on nous dit « Vous restez chez vous, vous n'avez plus le droit de sortir, sinon il faut un petit papier et vous risquez d'être contrôlé ». Moi, sur mon bureau, me regardait mon quatrième manuscrit, celui qui va être édité dans quelques semaines, qui était terminé, que j'avais envoyé quasiment à mon éditeur. Et j'en ai profité pour le relire peut-être une 103e fois. Pierre doit rire quand il entend ça.
Oui, absolument.
Voilà. Et rapidement, je me suis mis à l'écriture d'un nouveau roman, d'une nouvelle aventure de mon héros Marcus. Je me suis plongé dedans parce que je ne voulais pas rester désespéré devant la télévision qui me assommait en boucle de nouvelles terribles. Voilà, donc j'ai dit non, à un moment j'ai dit il faut que j'y tienne, ce n'est pas possible. Et je me suis mis à fond dans l'écriture de ce roman et en fait, au fil du temps, au fil des jours, en sortant, faire des courses, etc., j'ai entendu les gens. J'ai écouté les gens et j'ai commencé à noter de la tristesse, une forte tension, une perte de repère, de la dépression. Et là, j'ai des idées mais plus cette fois-ci de romans d'action qui sont arrivés dans mon esprit, qui ont commencé à tourner la nuit et m'empêcher de dormir, mais raconter l'histoire de gens qui, justement, ne comprennent plus la société, etc. Et je me suis mis, en plus de l'écriture de mon aventure, de mon héros, je me suis mis à l'écriture de 2 autres romans sociaux, voilà, pour parler aux gens, leur dire voilà vous ressentez ça, ben moi aussi, et voilà comment je le ressens, et voilà comment on peut peut-être continuer à marcher tous ensemble.
Oui. Alors ça c'est l'une
plus tard.
Oui, non, mais ça c'est pour plus tard. Ça c'est l'une des difficultés du moment, c'est que il y a eu beaucoup de gens qui ont été touchés évidemment par cette angoisse, par cette crise, en se disant il va y avoir un nouveau monde qui va s'ouvrir en fait devant nous. Et c'est peut-être un piège. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Pierre Ménard et Frédéric qui est avec nous. Parce que là, il va y avoir des embouteillages quoi, pour écrire sur le même sujet. Quoi, non
c'est visiblement ce qui est déjà en train de se passer, c'est qu'il y a un afflux de manuscrits sur le confinement. Ouais. Je crois qu'à la sortie du premier confinement, il y a une centaine de livres qui sont parus en quelques semaines sur justement des journaux intimes de confinement, des choses comme ça. Donc oui. Il y a vraiment une tendance.
Et sur une vision du monde d'après, c'est-à-dire là, c'est plus de l'essai, on n'est plus dans le roman, quoi.
Et là, on est plus dans le Jacques Attali.
Alors oui, non, mais c'est vrai, dans le Jacques Attali. Alors après, il faut avoir un peu d'expérience pour ça. Frédéric Compierre, vous dites écrire. Et alors, il y a des auditeurs qui doivent se dire, mais alors, est-ce qu'ils écrivent vraiment ou en fait, on n'écrit plus, parce que vous disiez, on prend la plume, etc. Ou est-ce qu'on continue de faire comme ça ou on tape évidemment sur ordinateur?
C'est une question que j'ai posée à beaucoup des gens que j'ai interrogés. Ouais. Et effectivement, presque tous ont dit qu'ils avaient fini, même les plus résistants, à abandonner l'écriture manuelle. Donc la plupart, quand même, sont passés à l'ordinateur.
À l'ordinateur.
Même si tout le monde dit que ça change complètement le rapport à l'écriture, puisque le stylo, ça crée quand même une proximité, c'est un acte, alors que taper sur des touches, c'est beaucoup plus. Ça change même le style, les phrases se raccourcissent beaucoup.
Ouais.
La ponctuation est plus forte qu'avant, mais c'est tellement plus pratique qu'effectivement, presque tout le monde.
Alors, pour ceux que ça intéresse, justement, vous donnez un certain nombre de conseils pour écrire. Parce que bien souvent, on se dit oui, mais bon, je sais un peu écrire, mais bon, allez, je ne maîtrise pas tout. Et sur, par exemple, le choix du vocabulaire, c'est vrai que dans énormément de livres, dans les conversations ou dans les courriers qu'on reçoit dans les mails, bien souvent, on va au plus facile.
Oui, c'est assez pauvre, en fait.
Bah oui,
en matière de vocabulaire.
Et ça, on l'apprend à l'école, normalement, mais on l'oublie après de ne pas utiliser avoir, être, faire.
Chose.
Mais essayer de trouver les mots justes, quoi.
Oui, je pense que vraiment, ce qu'il faut, c'est arriver à faire entendre sa propre voix. Donc, déjà, un premier conseil, c'est d'oublier qu'on est en train d'écrire, en fait. Ne surtout pas chercher à impressionner, parce que c'est comme ça qu'on va faire quelque chose de complètement sibyllin, un peu grotesque. Ce que faisaient, par exemple, les frères Goncourt, où ils torturaient des tas de mots. Donc, essayer d'écrire simplement, mais ça ne veut pas dire mal écrire, ça veut dire aussi faire un travail sur ce vocabulaire, donc avoir un petit carnet où on note des mots qui plaisent, relire les auteurs qu'on apprécie, voir ce qui marche dans leurs phrases. Et puis oui, après, éviter évidemment les fautes, les verbes trop communs, et notamment éviter tout ce qui est très plat, c'est-à-dire des adjectifs
la guerre, c'est mal.
Voilà, des choses comme ça. Il faut vraiment essayer d'avoir des idées qui soient personnelles, ne pas dire ce que tout le monde dit, et donc ne pas hésiter à raturer, à supprimer tout ce qui est vraiment trop banal.
Oui, dans ces conditions.
Est-ce qu'avoir une plume, justement, ça s'apprend? Est-ce que, parce qu'on dit toujours que les auteurs ont une plume, est-ce que ça s'apprend ou est-ce que c'est totalement subjectif?
En fait, je pense qu'il y a deux réponses à ça. C'est qu'il y a des gens qui écrivent extrêmement bien dès le départ et naturellement. Et si on regarde, c'est un don. Si on regarde Saint-Simon, par exemple, le mémorialiste, il a un style qui est très personnel, qui est souvent en plus plein de fautes de construction, plein de fautes de français. Mais il le dit lui-même, il est pas écrivain. Si on lui avait dit qu'il était écrivain et un des plus grands écrivains, il aurait ri. Il ne pensait pas du tout. Mais lui, c'était vraiment un don. Alors sans doute aidé par une grande méchanceté. Et de l'autre côté, oui, je pense que ça peut clairement se travailler, apprendre justement à ne pas utiliser des mots trop communs, à faire des phrases qui aient un sens, à les raccourcir et à les retravailler. Je me suis amusé notamment à regarder ce que Proust disait sur le style de Flaubert, et en lisant ça, les critiques sur le style de Flaubert, Proust faisait lui-même parfois des phrases complètement incompréhensibles, très mal construites, donc il aurait mérité lui-même de se relire un peu.
Oui, parce que c'est vrai qu'il faut avoir du vocabulaire, et c'est en cela que ça peut être un peu effrayant quand on se met quand même devant son ordinateur et pas une feuille blanche avec la plume, de se dire mais est-ce que je serais capable d'avoir une gamme de mots, un vocabulaire assez riche pour pouvoir illustrer tout ce que je souhaite dire, quoi.
Je crois que c'est Racine qui écrivait ses tragédies avec 1000 mots. Il n'a jamais utilisé plus de 1000 mots différents, donc très très peu. Donc on n'a pas forcément besoin de connaître plein de mots très savants et très compliqués. Au contraire, ça peut rebuter le lecteur pour faire quelque chose de bien. Il faut apprendre justement
à rester simple. Alors est-ce que vous pouvez conseiller de... On écrit une première version, entre guillemets, et puis ensuite on la retravaille en l'améliorant, comme quand on fait du sport. C'est-à-dire qu'on fait un premier essai, on se dit bon, c'était pas terrible là, je vais reprendre ça.
Je pense que c'est ça vraiment la clé d'un bon livre, en fait. Et s'il y avait une seule chose à retenir de ce livre, je pense que ce serait ça. Et c'est ce qu'on dit tous les auteurs, sauf un ou deux, mais vraiment tous, c'est la relecture. Tout à l'heure, l'intervenant parlait de la 103e relecture, et c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire relire tout le temps, faire relire par d'autres, relire en imprimant.
Est-ce que j'allais dire, est-ce que c'est faire relire aussi par
aussi, d'autres. Aussi, il faut accepter justement que les autres, et leur demander d'être les plus durs possibles, justement, et qu'on nous dise éventuellement, en fait, les trois quarts sont achetés et se concentrer sur le quart.
Oui.
Je crois que c'est un éditeur de chez Gallimard qui avait répondu à quelqu'un qui lui envoyait son texte. Monsieur, page 23, une phrase est géniale, le reste est à revoir.
C'est Frédéric,
quand vous écrivez votre histoire, est-ce que vous avez déjà en tête, avant de commencer, la fin de l'histoire, la manière dont se terminera le récit pour votre héros, héroïne éventuellement?
Oui, oui, moi, quand les histoires, puisque je les connais bien, donc je connais la totalité de l'histoire, après je dois faire le tri, parce que je veux intégrer dans l'histoire, et ce que je ne veux pas intégrer dans l'histoire, c'est, comme l'a très bien dit Pierre, c'est un travail, on pose sur son écran d'ordinateur l'histoire, moi je le fais comme ça, je ne me concentre pas sur la qualité d'écriture quand j'écris sur l'ordinateur, mais après j'ai besoin d'imprimer en papier, j'ai besoin de sentir mon texte. Et c'est là que je reprends mon stylo, et c'est là que, je disais, c'est cette 103e correction, c'est là qu'on enlève ce qui n'a aucun intérêt, qu'il faut enlever, c'est là qu'on garde ce qui est intéressant, qui est le cœur du sujet, c'est là qu'on améliore, mais moi je veux pas avoir une écriture trop riche, et comme on est très bien de le dire, si les gens doivent passer leur journée dans le dictionnaire pour comprendre les mots qu'on a mis à l'intérieur, c'est un autre style.
Oui, mais Frédéric, est-ce qu'il vous arrive d'épargner des personnages que vous, puisque vous écrivez des thrillers, hein, est-ce qu'à un moment donné vous dites, celui-là finalement il ne mourra pas, est-ce que ça vous est arrivé?
Non. Quand je sais qu'il doit mourir à tel moment, il est condamné. Il va quand même mourir. Alors éventuellement, c'est la manière dont il meurt qui peut changer.
Ah d'accord. Voilà. La manière douce ou plus dure.
L'avantage, c'est qu'on ne va jamais en prison. On peut tuer autant qu'on veut.
On peut tuer. C'est terrible. C'est terrible.
Merci beaucoup. Le grand roman de l'écriture, c'est aux éditions Novice. Et on salue au passage bien aussi le courage de l'éditeur, du jeune éditeur Novice pour se lancer. Merci à vous, Pierre Ménard. Bien sûr, je rappelle aussi que vous aviez écrit donc Les Infréquentables Frères Goncourt en 2020 et finaliste du prix Goncourt de la biographie également l'année dernière. Et merci à vous, Frédéric, pour vos romans. L'histoire extraordinaire d'un homme très ordinaire, Dimitri le prisonnier et Que meurt la bête, c'est aux éditions Edi Livre à Paris.
Bon, en tout cas,
on cite tout le monde.
En tout cas, même si vous ne voulez pas écrire, lisez-le parce que c'est très drôle à lire et c'est nourri de plein de choses et c'est très intéressant. Le grand roman
passage,
d'écriture.
Vous pouvez aussi lire le roman de Cécile de Ménibus sur sa vie.
Bon, alors
c'est
au revoir.
C'est différent. Allez,
c'est
9h48, c'est
le grand matin sur Radio.
Un essai, c'est autre chose.
Non, c'est pas un essai.
Il faut le dire. C'est entre roman et essai, quoi.
Oui, bonjour. Allez, salut. À tout à l'heure.